Mémoire vive, présentée par Perrine Kervran et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. En janvier 2012, la chaîne nationale de télévision turque a diffusé en prime time sur une période de 10 semaines Shoah, le documentaire de Claude Lanzmann d'une durée de 9 heures. Le film, également diffusé par satellite partout dans le monde, a été regardé par des millions de téléspectateurs turcophones. Cette programmation s'est faite dans le cadre du projet Aladdin, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui veut justement s'attaquer au négationnisme et à l'antisémitisme qui se développent parfois trop souvent dans certains pays musulmans. L'idée de départ, développée en 2009, est de diffuser des informations et quelques grands textes dans ces régions en mettant sur pied des traductions en langue arabe afin de les mettre gratuitement à disposition sur Internet. Mais le projet Aladdin a mis en place bien d'autres actions que nous allons évoquer avec Anne-Marie Revkolevski, et puis il y aura aussi d'autres projets à venir. Donc présidente de ce projet, mais aussi créatrice de l'émission Mémoire vive que vous écoutez en ce moment. Bonjour.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez, Anne-Marie Revkolevski, si on en vient à ce qui s'est passé en Turquie, nous raconter comment s'est mis en place ce projet de diffuser ce documentaire de Claude Lanzmann, Shoah?
Volontiers. Notre relation à la Turquie est assez particulière parce que si, lorsque nous avons, et vous l'avez très bien résumé, lorsque nous avons commencé le projet Aladdin, nous avons décidé de combattre le négationnisme, la banalisation de la Shoah en Iran et dans un certain nombre de pays arabes, avec la Turquie, c'était un peu différent. Nous avions conscience que la Turquie faisait face à autre chose qui était vraiment l'ignorance. Donc, on a commencé à travailler avec la Turquie d'abord en 2010. C'est-à-dire qu'en 2010, peut-être que certains auditeurs se souviennent, le projet Aladdin avait organisé une tournée dans 10 capitales du monde musulman qui allait d'Istanbul au Caire, à Rabat, à Tunis, à Amman, Bagdad et à Istanbul, où nous avions lu Primo Levi dans ses différentes langues. Et déjà en 2010, Claude Lanzmann était allé à l'université d'Istanbul pour parler pour la première fois de la Shoah à un public turc, qui était un public universitaire. Et puis ensuite, en 2011, il y a eu un très grand voyage organisé par le projet Aladdin, d'ailleurs Rachel Rimer y était, qui a consisté à emmener pour la première fois autant de responsables du monde musulman à Auschwitz, à Birkenau. C'est un voyage tout à fait exceptionnel. Et il faut dire que la délégation étrangère la plus nombreuse était une délégation turque, avec des hommes politiques, avec des écrivains, avec des journalistes extrêmement importants. Et à la suite de ce voyage, il y a eu dans la presse turque énormément d'articles. C'est-à-dire qu'il y avait manifestement un désir d'informer un lectorat, des auditeurs et des téléspectateurs sur un sujet qu'ils ignoraient. Le résultat a été que la communauté juive de Turquie, qui vit dans une situation qui n'est pas toujours très facile, surtout il faut se souvenir qu'il y avait eu un attentat devant la synagogue d'Istanbul en 2003, a considéré que ce voyage était une ouverture qu'apportait Aladdin aux questions sur le judaïsme. Et donc la communauté juive nous a vraiment conseillé, nous a enjoint de poursuivre notre action avec la Turquie, mais toujours sur cette question de la connaissance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ensuite, après avoir vu le formidable écho médiatique du voyage dans toute la presse et les télévisions turques, Claude Lanzmann est allé au Festival d'Istanbul de cinéma, où il a représenté le film Shoah, enfin il a présenté, pardon, pour la première fois le film Shoah, que nous venions de sous-titrer, donc en turc, évidemment pas en arabe, avec une masterclass qui a été suivie et qui a été exceptionnelle. Donc si vous voulez, si je dis tout ça, c'est parce que la projection du film de Shoah sur la télévision turque est la poursuite d'un certain nombre d'événements. Et comme vous avez dit très justement, cette télédiffusion a été formidable, puisque là nous savons qu'il y a eu plus de 5 millions de téléspectateurs qui ont regardé, peut-être pas toujours les 9 heures, mais qui ont regardé donc ce film avec la même chose, une très grande curiosité et un très grand intérêt pour ce sujet.
Alors, est-ce qu'il y a eu, Anne-Marie Revkolevsky, une présentation avant la projection du documentaire? Est-ce qu'il y a eu des débats organisés à la télévision? Comment ça s'est passé
Non. Alors, il n'y en a pas eu, mais il n'y en a pas eu pour une raison simple, c'est que Claude Lanzmann était malade et donc il ne pouvait absolument pas partir, alors qu'il y avait normalement une présentation sur les plateaux de télévision. Il n'a pas pu partir, donc il avait enregistré un message qui a été lu parce qu'il y a eu une très grande cérémonie à la grande synagogue de Nevé Shalom. Donc, son message a été transmis, mais en revanche, on n'a pas pu faire les débats qui auraient pu avoir lieu.
Alors, quand on fait un tel événement, quand on projette ce documentaire qui dure 9 heures, hein, il faut le rappeler, sur une chaîne de télévision qui n'avait peut-être pas vocation au départ à le diffuser, est-ce qu'on a moyen de savoir quelle a été la réception du film, quels en ont été les échos, comment est-ce que ça a été reçu?
Alors, ça a été, vous savez, il y a toujours un moyen de savoir. Le premier moyen, c'est de regarder le nombre de téléspectateurs qui continuent à regarder. Le deuxième moyen, c'est qu'il y a eu une étude des sites internet de cette chaîne, sur les blogs. Et en fait, les réactions étaient toujours des réactions de surprise, c'est-à-dire de surprise, encore une fois, qui confirmaient l'hypothèse que nous avions émise au début, c'est-à-dire qu'il y avait une très grande ignorance. Et je dois dire quand même que ça n'a pas été toujours très facile, ça n'a pas été facile en fait d'obtenir cette télédiffusion. Et pour d'abord deux raisons très simples. La première, c'est que il faut bien se souvenir qu'après la flottille des Turcs à Gaza, les relations avaient été coupées entre la Turquie et Israël, ce qui était déjà une première difficulté. Et puis ensuite, au moment où il y avait un réchauffement des relations, nous pensions donc que ça allait être plus facile. Et alors là est arrivée en France la loi sur le génocide arménien. Et donc là, cette fois-ci, Aladin était de nouveau dans le collimateur, puisque c'était une organisation française qui voulait venir parler de la Shoah. Et les autorités turques étaient extrêmement, comme vous savez, en colère par rapport à la position française. Et puis d'autre part, ils craignaient qu'à l'occasion du débat qui pouvait être engendré par le film Shoah, on allait commencer à parler du génocide arménien. Donc je dois dire que s'il n'y avait pas eu en réalité à haut niveau, à cause du voyage à Auschwitz, l'intervention de hautes personnalités au plus haut niveau du gouvernement, nous n'aurions certainement pas pu diffuser sur la chaîne nationale le film de Claude Lanzmann.
Et effectivement, on peut s'attendre, quand on voit surtout l'ampleur du projet Aladin, on aurait pu s'attendre à ce qu'un lien soit fait entre l'histoire du génocide arménien et l'histoire de la Shoah. Effectivement, ça aurait pu être pédagogiquement intéressant, en tout cas.
Eh bien, écoutez, ça ne l'a pas été. C'est-à-dire que je crois que sur ce sujet, les commentaires, la majorité des commentaires étaient très frappés précisément par la spécificité du génocide. Et que probablement même ceux qui, en Turquie, considèrent que ce que les Français considèrent comme le génocide arménien pensent que c'est un génocide, ou ceux qui pensent que c'est un massacre, mais ils ont bien saisi la différence de la Shoah par rapport au génocide ou au massacre arménien.
Alors quand vous parlez d'ignorance par rapport à la question de la Shoah en Turquie, on peut se demander, Anne-Marie Revkolevsky, est-ce que finalement l'histoire de la Shoah, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas enseignée dans les écoles turques?
Alors elle n'est pas enseignée, mais je dois dire que nous avons quand même découvert aussi autre chose, c'est que l'histoire des Juifs en Turquie n'est pas enseignée, et que l'histoire des Juifs en Turquie n'est pas connue non plus. Et c'est pour ça que récemment, j'étais donc encore en Turquie pour une autre manifestation, puisque je reviens de l'université Başakşehir à Istanbul, où là, avec le président de l'université et l'UNESCO, nous avons organisé une conférence sur une autre histoire, très honnêtement, que je pense peu de gens connaissent, et qui est l'accueil par la Turquie dans l'entre-deux-guerres, au moment de la montée du nazisme, lorsque des professeurs d'université allemands ou autrichiens dans différentes disciplines étaient expulsés et probablement menacés de déportation, Albert Einstein a écrit une lettre à Atatürk en lui demandant d'accueillir ces universitaires. Et c'est plus de 200 universitaires allemands et autrichiens qui ont été accueillis donc à Istanbul, dans les universités, avec un impact très important, parce qu'ils ont découvert une université du 19e siècle, et eux venaient de très grandes universités allemandes, et ils y ont introduit des réformes formidables. Donc c'était une histoire que peu de Turcs connaissaient, peu de Juifs connaissaient. Et donc, ça a été l'occasion pour nous de comprendre que non seulement cette histoire de l'entre-deux-guerres n'était pas connue, mais l'histoire des Juifs qui venaient d'Espagne et qui sont arrivés en Turquie, dans l'Empire ottoman à l'époque, n'est pas plus connue.
Oui, alors peut-être justement, je pense que c'est intéressant que vous nous parliez de ça, de cette histoire de la communauté juive en Turquie, c'est-à-dire quelque chose qui, effectivement, n'est pas toujours très connu.
Mais la communauté juive de Turquie, elle est un peu repliée sur elle-même. Bien qu'il y ait un magnifique petit musée, s'il y a des gens, des visiteurs qui vont à Istanbul, il faut aller voir ce petit musée qui résume les relations entre le pouvoir musulman, le pouvoir ottoman et la République d'Atatürk et puis le judaïsme aujourd'hui. Je pense que la communauté juive a besoin maintenant d'être reconnue. Et donc c'est aussi une invitation vis-à-vis du projet Aladin d'essayer de la faire connaître. Et je dois dire que l'un des résultats de cette conférence que nous avons eue dans cette université, avec le président Enver Yücel, qui est un président extraordinaire, c'est d'une part de montrer qu'il était très important qu'il y ait justement, et je vais répondre à votre première question, qu'il y ait un enseignement de la Shoah en Turquie. Et ça, c'est un accord que nous avons eu avec l'ambassadeur Ertan Ezgor, qui est le représentant à la Task Force, cette organisation internationale qui s'occupe de la Shoah. Donc nous allons organiser pour la première fois ensemble une conférence sur l'enseignement de la Shoah avec l'Institut Yad Vashem, avec le mémorial de la Shoah à Paris et avec le mémorial de Washington. Ça a été le premier résultat. Le deuxième résultat qui est très important, c'est que nous avons vraiment découvert qu'il n'y avait pas dans aucune université turque d'études sur le judaïsme. Et le président donc de cette université a décidé qu'il fallait absolument créer le premier département. Bon, c'est vrai que c'est une idée que j'ai lancée à l'occasion de mon intervention, après avoir entendu un certain nombre d'autres intervenants. Et ça a été immédiatement repris par le directeur général du musée Topkapi, Monsieur Ortoli, Iber Ortoli, qui est aussi membre du projet Aladin et qui a considéré que s'il y avait une priorité aujourd'hui dans l'université, dans les universités du Turc, c'est d'avoir au moins quelque part un département qui pourrait essayer d'enseigner non pas seulement l'hébreu, mais qui prendrait à bras le corps, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire et du judaïsme turc. Donc je crois que ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Je ne pensais pas d'ailleurs que nous allions parler de ça quand je suis allée là-bas, mais c'est un résultat que la communauté turque juive considère comme très important, et les universitaires que nous avons rencontrés qui ne sont pas juifs considèrent que c'est aussi très important.
Elle est importante, cette communauté juive en Turquie?
Non, elle n'est pas très importante. Il y a deux synagogues, une petite synagogue ashkénaze, une synagogue plutôt séfarade avec beaucoup de juifs qui se disent originaires des juifs venus d'Espagne. Mais c'est une communauté vivante avec une école juive, avec un Talmud Torah. Donc c'est une communauté tout à fait vivante. Et je dois dire quand même que j'ai pour la première fois perçu quelque chose qui n'a rien à voir avec Aladin, mais en parlant avec certains des membres de cette communauté, puisque j'étais aussi pour le Yom HaShoah là-bas, en fait, c'est l'humiliation qu'ils ont subie en n'ayant pas été admis dans l'Europe. Et ça, je crois qu'au fond, quand on lit les articles, on se dit, nous, oui, bon, bah, les Turcs, ils ne viennent pas dans l'Europe. Mais je n'avais jamais perçu à tel point ce sentiment d'humiliation que les Européens faisaient ressentir aux Turcs, comme si au fond les Turcs étaient moins dignes d'entrer dans l'Europe. Et comme du côté d'Istanbul, on est quand même dans la partie européenne de la Turquie, j'ai vraiment parlé à un certain nombre d'universitaires non juifs dans le cadre de cette conférence, et à des juifs donc turcs, et il y avait vraiment ce ressenti qui m'a beaucoup fait réfléchir.
Alors peut-être on peut revenir à Anne-Marie Rzgleski sur l'histoire du projet Aladin et peut-être rappeler à quelle occasion et pourquoi est-ce qu'il a été mis en place.
Bon, il a été mis en place donc, très rapidement pour combattre le négationnisme, la banalisation de la Shoah, l'antisémitisme, la xénophobie, le racisme, avec toujours la même façon de procéder, c'est-à-dire de transmettre la connaissance et de la transmettre dans la langue des autres. Donc le projet Aladin a continué de traduire, il a continué d'organiser un site avec un maximum d'informations dans les 5 langues, hein, avec le turc, le français, l'anglais, l'arabe et le persan. Et je dois dire d'ailleurs que les visiteurs du site turc sont extrêmement nombreux et assez étonnamment, deux coins de la Turquie, puisque vous savez qu'on sait toujours d'où viennent les internautes, d'endroits de l'est de la Turquie où il n'y a pas de communauté juive. Donc il y a une véritable curiosité. Mais je voudrais encore vous ajouter quelque chose, parce que le projet Aladin, je pourrais vous en parler des heures, puisque je sais qu'ici, on souvent me dit « Mais alors, qu'est-ce que ça devient, le projet Aladin? Vous n'en parlez jamais, tu n'en parles jamais, Anne-Marie, en France. » Alors je dis oui, mais parce que comme l'essentiel des activités que nous menons sont toujours dans les pays musulmans, c'est là-bas, bien sûr, que nous mettons toujours l'accent. Mais l'autre projet dont je voudrais vous parler, qui est un projet important, parce qu'il y a eu aussi quelque chose en Turquie qui s'est passé récemment, c'est que le projet Aladin donc, a élargi donc, son champ, si vous voulez, d'action sur le terrain de la connaissance et du rapprochement des musulmans et des juifs avec un projet interreligieux. Avec un projet religieux très spécifique qui est qu'il y a beaucoup d'organisations de dialogue interreligieux, mais ce dialogue interreligieux, il réunit très souvent des gens qui sont déjà prêts à dialoguer. Alors nous avons lancé, nous travaillons en tous les cas pour l'instant dessus, un projet de formation. Alors vous savez que le projet Aladin, c'est toujours dans l'éducation. Donc un projet à long terme, c'est un projet de formation des futurs imams, rabbins, pasteurs et prêtres. Et avec cette idée que chacun dans sa propre religion reçoit toujours une formation dans sa propre religion. Mais il est très rare qu'il reçoive un minimum d'informations sur la religion de l'autre. Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui déjà depuis 6 mois avec des représentants de toutes les religions, avec aujourd'hui des personnalités religieuses d'une très grande importance qui sont en train de le parrainer. Et justement, pour revenir pour Istanbul, il y avait à l'occasion de cette réunion à l'université où assistait le grand rabbin Sirat, qui est l'un des 3 parrains de ce projet interreligieux, eh bien, il y a eu une rencontre très impressionnante entre lui, le grand rabbin de Turquie, Isaac Aleva, les 2 imams de Turquie, le professeur Rami Yaran, qui est le moufti d'aujourd'hui, le professeur Mustafa Çakırişi, qui est le moufti émérite, et puis surtout le patriarche Bartholomée Ier, qui est un grand personnage sur le plan de l'orthodoxie. Et ces trois personnages ont vraiment décidé, en tous les cas, de commencer par ouvrir leur propre séminaire. Et la première conférence qui va lancer donc ce projet interreligieux va avoir lieu à Istanbul.
Oui, donc dès le départ, la Turquie était vraiment englobée. Elle est toujours dans le projet Aladin. C'est un des piliers de ce projet.
Non, elle n'est pas un des piliers. Elle est l'un des pays. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la Turquie a pris une importance plus particulière parce que, en même temps, quand on regarde les mouvements dans les pays arabes, que certains ne veulent plus appeler les printemps, mais peu importe, en tous les cas, tous ces soulèvements, toutes ces révolutions, il est clair que la Turquie aujourd'hui joue un rôle de modèle. Donc nous n'avons pas souhaité être particulièrement enclin à travailler avec la Turquie, mais il se trouve que c'est vrai que la Turquie aujourd'hui est un élément essentiel des relations entre l'Occident et le monde musulman.
Alors peut-être pour finir, Anne-Marie Rivkoleski, pouvez-vous nous parler des quelques projets à venir pour Aladin ?
Alors les quelques projets à venir pour Aladin, donc nous avons donc ces différentes conférences, séminaires d'été aussi encore en Turquie, mais nous avons, vous me donnez encore combien de minutes ?
Oh ben vous avez encore au moins 3 minutes.
Encore au moins 3 minutes. Alors nous avons un très beau projet, c'est le projet Aladin Femmes. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais travaillé en France parce que c'est vrai que nous répondions souvent, écoutez, sur la France, le dialogue entre les musulmans, les juifs, il y a beaucoup d'organisations qui s'en occupent. Est-ce qu'à s'occuper de ce qui se passe ici ? Alors, nous avons décidé de lancer un projet, mais de le lancer au niveau des femmes. Et donc, nous travaillons aujourd'hui avec un groupe de femmes juives musulmanes qui sont très engagées, qui ont absolument envie d'en découdre et de montrer que lorsqu'il y a des crispations, lorsqu'il y a dans certaines communautés des antagonismes d'une très grande violence, eh bien nous les femmes, on est capables d'avoir une sorte de morale apaisante qui fait que nous ne sommes pas aussi tranchants que peuvent être les discours masculins, que peuvent être les actions masculines. Et nous pensons donc que nous sommes capables de faire avancer bien des causes. Et en tous les cas, toutes les femmes qui sont autour de ce projet, avec Suzanne Nakache, qui en est la coordinatrice, je suis absolument persuadée que nous allons faire avancer ce dialogue et cette entente et ce vivre ensemble entre juifs et musulmans.
Alors, ce sera au travers de conférences
Oui, ça sera au travers de conférences, au travers d'entretiens, au travers de rencontres, au travers de clubs de lecture sur des lectures communes, avec des visites d'exposition, avec des échanges et avec un très beau projet que je peux annoncer, bien que nous soyons en train de travailler dessus. Vous savez, je crois qu'il y a un proverbe africain qui dit quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Eh bien, nous sommes en train de travailler sur un projet de recueil de témoignages de femmes et d'hommes, probablement d'un certain âge, qui ont vécu dans des pays où les juifs et les musulmans se sont côtoyés, et nous avons décidé d'enregistrer tous leurs témoignages.
Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est un des axes du projet Aladdin, c'est de rappeler cette histoire des pays, des communautés, des endroits où les religions vivaient ensemble.
Et je peux vous assurer que quand nous écoutons ces femmes qui nous ont rejointes et qui nous parlent de leur grand-mère, elles ont toutes le même discours. Bien sûr, la situation en Algérie n'était pas la même qu'en Tunisie, n'était pas la même qu'au Maroc, n'était pas la même qu'en Irak. Mais il y a une nostalgie d'un mode de relation et je pense qu'il est important que les jeunes générations entendent, et surtout dans notre pays, puisque nous commençons par la France, entendent qu'à certains moments de l'histoire, il y avait des fêtes communes, des pèlerinages communs, des moments de grande harmonie, de grande joie, de grand partage, même si ensuite, à cause des circonstances de l'histoire, les conflits souvent très sanglants, ont cassé ce vivre ensemble et que les femmes souvent apportaient. Donc j'espère beaucoup de ce projet. Je pense qu'il va être porté, qu'il va être aussi un projet intergénérationnel. Et je pense que dans l'école et à l'intérieur de l'école, parce que nous avons un certain nombre de professeurs qui ont très envie de s'emparer de ce sujet et qui considèrent que faire parler ce type de témoin à l'intérieur d'une classe, c'est aussi une façon d'apporter la mémoire vivante et qui est l'histoire à construire demain à partir de l'histoire d'hier.
Merci encore. Je rappelle, Anne-Marie Revkolewski, que vous êtes donc responsable du projet Aladdin et que l'on peut consulter énormément de documents sur votre site qui donne aussi accès à une bibliothèque numérique gratuite. Donc le site, j'imagine, c'est aladdin.
Oui, c'est projet Aladdin. C'est Aladdin Library. À Aladdin Library, on trouve 9 livres en arabe et en persan. On trouve beaucoup, beaucoup de documents et chaque jour, notre site s'enrichit. Merci à vous.
Merci encore. C'était Mémoire Vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radiorcj.info et le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.